Vous êtes sur RTL.
Avec
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Trois nouvelles arrestations ce matin dans la vaste enquête sur les violences dans le monde du porno, traite d'êtres humains, viol. Les sénateurs se saisissent du sujet. Ils veulent davantage de protection pour les actrices, pour les mineurs. RTL a pu consulter le rapport qui sera présenté demain. Le coup de gueule d'Éric Dupond-Moretti après les affaires Quatennens et Bayou, le ministre de la Justice dénonce une dérive et veut revenir au droit, rien qu'au droit. Nouvelle fuite sur les gazoducs Nord Stream, le Kremlin se dit préoccupé, Moscou n'exclut pas un sabotage. Paris condamne la répression en Iran, au moins 75 morts depuis le début des manifestations selon une ONG. Qui sont ces femmes, ces jeunes qui se dressent contre la théocratie des mollahs? On en parle à Presse Journal avec la journaliste Mariam Pirzadeh.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui on part pour le Castellet où depuis 3 mois il est impossible de boire l'eau du robinet. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Il fait froid, alors comment se chauffer à moindre coût? Armelle Lévy va tout vous expliquer. Juste avant 13h LVT midi, Florence Foresti aime les hommes, elle le clame dans son nouveau spectacle Boys, Boys, Boys. La
ça
première, c'est ce soir. Monique Younes l'a déjà
ça
vu.
Ça devient une exception.
La question du jour sur RTL.fr, les sites pornographiques, faut-il généraliser le contrôle parental sur les téléphones portables?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h. J'ajoute un thème que nous développerons notamment dans les auditions. Ont la parole. Un sondage nous apprend qu'un couple sur 10 fait chambre à part. Est-ce que c'est votre cas? Vous pourrez nous donner votre avis entre 13h et 14h30.
Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Temps agité et pluvieux à l'est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Trois hommes interpellés ce matin dans l'enquête sur la plateforme de vidéos pornographiques French Bukkake. Ils sont soupçonnés de traite d'êtres humains aggravés, viol en réunion ou proxénétisme aggravé. Tout cela dans un vaste dossier visant l'industrie du porno. Dossier judiciaire donc, mais qui a aussi un volet politique, puisque des sénateurs ont décidé de s'en saisir. William Galibert, vous avez eu accès en exclusivité pour RTL au rapport qu'ils présenteront demain sur l'industrie de la pornographie, avec deux axes majeurs. La protection des jeunes et la protection des actrices.
Oui, ces actrices ont témoigné devant le Sénat. Leurs récits sont difficiles à encaisser. Ce que j'ai vécu, c'est de l'ordre de la torture, lâche l'une d'entre elles. Une autre raconte une séquestration dans une maison de campagne, des humiliations, des viols, pénétrations forcées sans préservatif. Elle conclut « Personne ne sait ce qui se passe réellement sur ces tournages ». Alors que disent les sénatrices qui ont rédigé ce rapport? Qu'il faut un droit à l'oubli, que ces vidéos doivent pouvoir être effacées beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, qu'il faut aussi écouter ces femmes, pourquoi pas sur la plateforme téléphonique qui existe déjà contre les violences conjugales, le 3919. Et puis derrière les écrans, il y a souvent des ados qui regardent, et là c'est la loi qui devrait simplement être appliquée, bloquer vraiment les sites pour les mineurs avec de vrais dispositifs techniques sous peine de très fortes amendes. Les sénatrices suggèrent aussi d'installer par défaut des dispositifs de filtrage parental sur les téléphones. Voilà les pistes du rapport qui n'est pour le moment qu'un rapport. Celles qui l'ont rédigé espèrent faire bouger les choses.
William Galibert du service politique de RTL.
Le coup de gueule d'Éric Dupond-Moretti à présent.
Le garde des Sceaux qui présentait ce matin le budget de la justice a réagi à la mise en retrait de deux responsables politiques de gauche ces derniers jours. Adrien Quatennens pour violence conjugale et Julien Bayou pour des soupçons de violence psychologique contre son ex-compagne. Et ça avant même les conclusions judiciaires. Un climat délétère pour le ministre de la Justice.
Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme... Oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. C'est mortifère et délétère pour les grandes institutions qui sont les nôtres et en particulier pour la justice que je veux défendre.
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice au micro RTL. Dan Le Hénaff, RTL, vous le révélez ce matin, trois ministres sont visés par une plainte au pénal à cause de ralentisseurs jugés non conformes. 450 000 au total en France, selon l'association pour une mobilité sereine et durable, qui porte donc l'affaire devant la Cour de justice. Elle met en cause directement Elisabeth Borne, Christophe Béchu et Clément Beaune. L'association met en avant une surconsommation de carburant, une pollution et des nuisances sonores. Bonjour l'Ukraine, la France est à vos côtés. C'est dans un tweet par ces mots, accompagné d'une photo d'elle sur une place de Kiev, que Catherine Colonna a annoncé sa visite dans la capitale ukrainienne. La ministre des Affaires étrangères française sur place en plein conflit avec la Russie.
Et dans le même temps, le Kremlin s'inquiète après Nord Stream 2, l'autre gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne. Nord Stream 1 fuit, lui et également.
Oui, deux fuites y ont été observées, deux fuites inexpliquées et forcément ça intrigue, Sophie.
Oui, parce que les fuites sur ce genre de gazoduc profond sont très rares, explique l'agence de l'énergie danoise. Donc trois en même temps sur les deux pipelines russes, difficile de croire à une simple coïncidence. Le mot de sabotage est sur toutes les lèvres, même Moscou vient de l'employer. La Suède et le Danemark, les deux pays concernés directement par ces fuites, sans se prononcer officiellement sur leur cause, ont relevé le niveau d'alerte de leurs infrastructures énergétiques. Une zone de sécurité maritime a été instaurée sur un rayon de 9 km autour des fuites. Les navires ne peuvent pas y pénétrer. Les avions doivent éviter de survoler ces mêmes zones.
Et est-ce qu'il y a des dangers avec ces fuites ?
Selon les autorités danoises, oui. Ces fuites provoquent des dégagements gazeux qui peuvent faire perdre leur flottabilité au bateau. Il y a également des risques d'inflammation au-dessus de l'eau et dans l'air. Les échappements de gaz peuvent aussi affecter la faune et la flore, mais très localement. Le méthane dégagé est considéré comme néfaste pour le climat, mais tout dépendra de la quantité rejetée dans l'atmosphère.
Sophie Jousselin pour RTL, merci.
RTL Midi.
Déjà qualifiée pour les quarts de finale du Mondial, l'équipe de France féminine s'est inclinée en dernier match de poule tout à l'heure.
C'est du basket et c'était une défaite face à la Serbie, Isabelle Langer. Défaite qui n'arrange pas les affaires tricolores, un adversaire plus que sérieux se profile.
Oui, le spectre des États-Unis ou de la Chine effectivement se profile, mais il y a encore une petite chance de les éviter. Tout va dépendre en fait du résultat du match entre l'Australie et le Japon qui débute à 12h30. Pour ne pas tomber sur les championnes olympiques américaines ou les Chinoises, les Françaises qui ont perdu 68-62 contre la Serbie tout à l'heure, doivent maintenant espérer une défaite de l'Australie. Si j'ai presque envie de dire, ce petit miracle arrive, alors les Bleus seraient opposés en quart à la Belgique ou Porto Rico. Vous voyez, la soirée s'annonce longue du côté de Sydney où se déroule ce mondial.
Isabelle Langer du service des sports d'RTL, merci Isabelle. La météo, on vous retrouve comme promis.
Il proche tout à vous.
Ah bah oui, ça c'est
pleut
sûr.
Et c'est l'automne.
Ah bah oui, mais c'est en même temps c'est l'automne, Pascal.
Bien non, mais bien sûr.
Météo agitée en fait aujourd'hui. On a un peu de tout. Hein. Des averses qui vont s'intensifier cet après-midi à l'est entre l'Île-de-France, la Franche-Comté, le Massif Central. On a de la neige sur les Alpes du Nord dès 1700 mètres. C'est du beau temps. En revanche, près de la Méditerranée, ça va se dégager au fil des heures avec beaucoup de vent, comme en Corse d'ailleurs où ça souffle jusqu'à 110 km/h sous un ciel couvert et des averses, jusqu'à 150 km/h en rafale même sur le Cap Corse. Et puis sur l'ouest du pays, c'est plus sec, souvent nuageux, entre la basse Normandie, le sud-ouest, allez peut-être quelques averses vers le sud-ouest, des averses plus marquées sur les Pyrénées où c'est bien chargé. Et puis on a une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrive par la Bretagne et qui va donner pas mal de pluie et de vent cet après-midi, tout ça sous une atmosphère fraîche. 13 seulement à Nancy, 15 à Paris et Lille, 17 à Lyon, 19 à Rennes et Toulouse, 22 à Montpellier et 26 à Nice.
Merci pays.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour en France, un jour chez vous. Chaque jour, l'info au plus près de votre quotidien.
Avec nos correspondants dans tout le pays, aujourd'hui direction le Castellet dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Bonjour.
Le Castellet où depuis plus de 3 mois les habitants ne peuvent plus consommer l'eau du robinet polluée par des pesticides. La vie, Hugo, s'organise donc autour de packs de bouteilles d'eau distribuées aux habitants.
Ouais, des palettes entières, plus de 25 000 bouteilles distribuées depuis cet été deux fois par semaine, les mardis et les vendredis aux 300 habitants, lassés par 3 mois de galère.
Salut. Ça va?
Ça va bien.
Ça me
fait 10.
Alors l'eau en bouteille, ben, on rince les légumes, on se brosse les dents parce que j'ai une bouteille d'eau sur le lavabo, on ne peut plus se rincer la bouche avec l'eau du robinet, on l'ingurgite quand même. Hein.
Voilà, cette eau est donc contaminée par un résidu de pesticide interdit en France depuis 10 ans, mais qui n'est mesuré, recherché que depuis cette année. L'Agence régionale de santé enquête pour connaître la véritable dangerosité de ce produit et applique pour le moment une sorte de principe de précaution.
Et parmi les principaux suspects de cette contamination, les pesticides utilisés pour traiter des vergers un peu en amont du village, mais également les produits nettoyants d'un champ de panneaux photovoltaïques situé à proximité.
Oui, en fait, beaucoup d'habitants pensent qu'ils boivent une eau qui est contaminée depuis des années, en réalité, puisque le pesticide n'est mesuré que depuis janvier. Certains accusent les produits nettoyants de ces hectares de panneaux solaires, et d'autres, comme Jean-Claude, penchent plutôt pour l'agriculture.
Tout à fait. Et les pommiers, toutes les semaines, on entend tourner le moteur, où ils sont en train de pulvériser, et ils continuent comme si rien n'était, sans savoir si c'est pas eux qui polluent. J'en sais rien. Peut-être que c'est pas eux. Mais les produits qu'ils mettent, hein, c'est pas de l'eau de source. Hein. Moi, j'ai un cancer de la peau. Je sais même pas si je peux prendre des douches avec l'eau du robinet. Parce qu'on sait pas exactement le degré de pollution.
C'est l'Office national pour la biodiversité qui est officiellement chargé de l'enquête auprès du procureur. Et pour le moment, depuis 3 mois, aucune baisse des taux de contamination qui sont 7 fois supérieurs à la norme autorisée.
En attendant les résultats de l'enquête, donc Hugo, une solution d'urgence va être mise en place dans quelques semaines avant un raccordement au réseau de la ville d'Oraison qui est à proximité pour le début de l'année prochaine.
Ouais, c'est l'eau de la rivière, la Durance, qui va être utilisée comme eau du robinet à partir de mi-octobre. Écoutez les précisions de Benoît Gouin, c'est le maire du Castellet.
Avec une alimentation en eau brute via le réseau d'irrigation avec une station de potabilisation. Ça, c'est une solution provisoire et rapide, on va dire. Ça fera 4 mois et là, après, la solution secondaire qui sera un peu plus long terme, c'est là. Le raccordement avec la commune d'Oraison, bon, qui prendra un peu plus de temps parce que ce sera plus long en travaux et en budget, bien sûr.
800 000 euros, c'est le budget estimé pour se raccorder au réseau. C'est l'agglomération qui va le prendre en charge, alors que le Castellet bénéficiait jusqu'ici de cette importante nappe phréatique qui est aujourd'hui donc polluée par un mystérieux pesticide.
Et ça ne concerne que la ville du Castellet, Hugo.
Ça concerne également un village qui est à côté, mais qui a trouvé une autre solution pour se raccorder à un autre réseau.
Merci beaucoup, Hugo Hamelin.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, on s'arrête sur la situation en Iran, cette révolte de la jeunesse, révolte féminine, mais pas que.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi.
Elles s'appelaient Hadis, Anané ou Razalé. Elles avaient 20, 23 et 32 ans. Ce sont les prénoms, mais aussi les visages de la contestation en Iran. Contestation qui a débuté le 16 septembre dernier après la mort de la jeune Mahsa Amini qui se trouvait entre les mains de la police des mœurs pour ne pas avoir porté correctement son voile. Depuis, les manifestations ont gagné tout le pays, relayées sur les réseaux sociaux avec ces vidéos de femmes retirant leur voile, le brûlant, se coupant les cheveux. Selon un bilan officiel, une quarantaine de personnes ont été tuées en 10 jours dans plusieurs villes du pays, manifestants et forces de l'ordre inclus. L'ONG Iran Human Rights fait de son côté état d'au moins 76 morts. La France condamne la répression violente des manifestations. Et pour en parler, nous accueillons Mariam Pirzadeh, journaliste à France 24. Bonjour.
Bonjour.
On a donné les prénoms de ces jeunes victimes, des jeunes femmes. Est-ce qu'elles correspondent, si je puis dire, au portrait robot des manifestantes qui défilent à ce moment, qui défient le pouvoir à Téhéran ?
Oui, exactement. Ce sont des jeunes filles parmi d'autres qui se trouvent actuellement dans les rues d'Iran, dans les rues de Téhéran, parce que les jeunes filles qui ont été tuées, il y en a une qui a été tuée à 1 heure de Téhéran, à Karaj. Il y a une mère de famille qui a été tuée aussi à Kalmanchah, c'est dans l'ouest de l'Iran. En fait, ce sont des jeunes filles d'une vingtaine d'années qui avaient la vie devant elles, qui sont étudiantes et qui demandent une autre vie, qui demandaient une autre vie. Donc, chacune des Iraniennes peut s'identifier à elle, effectivement, comme c'est le cas avec Mahsa Amini aussi.
Et comment l'État tente-t-il de réprimer cette contestation ?
Eh bien, comme à chaque contestation, c'est-à-dire fermer totalement Internet, couper les réseaux sociaux pour, d'une part, éviter que les vidéos de ce qui se passe vraiment dans les rues iraniennes ne filtrent à l'étranger, pour éviter aussi aux groupes de s'organiser, parce que là, on assiste à un mouvement qui est spontané depuis 12 jours. Il n'y a pas de leader, il est un peu désordonné. Donc, c'est pour éviter justement qu'il se coordonne.
Donc, ces images ne sont pas diffusées dans la société iranienne aujourd'hui.
Non, pas du tout. Et non, parce que la répression est féroce. Là, les chiffres que vous avancez sont sûrement en réalité beaucoup plus élevés. Les forces spéciales, les forces anti-émeutes qui sont dépêchées dans les rues iraniennes tirent à balles réelles sur les manifestants. Donc le bilan va être très très lourd. Lors des dernières contestations, un chiffre était avancé par les autorités d'un millier de morts, mais en réalité c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées, il y a des journalistes qui sont en prison, il y a des photographes qui sont en prison. Une analyste très courageuse dont il faut parler absolument, elle a parlé à la famille de Mahsa Amini. C'est l'une des journalistes qui a parlé de la mort de jeune fille à la population iranienne. Elle est isolement à la prison d'Evin plusieurs jours. Son avocat n'arrive pas à lui parler.
On parle beaucoup de ces femmes. On a cité les prénoms de victimes. C'était des jeunes femmes. Est-ce qu'il n'y a que des femmes dans la rue ou est-ce que ce mouvement est relayé aussi par des manifestants hommes?
Oui, bien sûr. Alors, c'est inédit dans le sens où ce sont les femmes qui sont d'abord descendues dans les rues, mais elles ont très vite été rejointes par des hommes. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui est composé de toute la jeunesse iranienne, mais il y a aussi dans ces manifestations, il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, j'ai vu aussi des personnes plus âgées, des grands-mères. Mais bien sûr, là, il y a une vraie solidarité qui s'est faite entre les femmes et les hommes. Ce n'est plus un mouvement féminin, en fait. Les hommes qui sont dans la rue demandent plus de droits pour leurs sœurs, pour leurs femmes, pour leurs amis. Donc c'est vraiment, il y a une unité, une convergence en fait des luttes entre les femmes et les hommes, bien sûr, actuellement dans les rues.
Et la question qu'on se pose, est-ce que ces manifestations peuvent aboutir à un changement, à faire craquer, pourquoi pas, le régime qu'on connaît particulièrement rude, dur? Certains disent, et je les entends, ça ne sert absolument à rien. Ne vous trompez pas, en Occident, ces images ne changeront rien au régime en place.
Alors, en ce moment, il y a deux courants de pensée. Il y a les optimistes qui espèrent que les choses vont changer. Il y a notamment toute l'opposition iranienne qui se trouve donc en dehors de l'Iran, toute la diaspora qui est fortement mobilisée. Vous avez dû voir cette manifestation à Paris ou à Londres, qui espèrent réellement un changement.
Mais ça, c'est la vision
pour pouvoir retourner dans leur pays. C'est la vision de l'Occident. Il y a aussi un optimisme parmi ces manifestants, bien sûr, qui descendent dans la rue. Enfin, ils risquent de se faire tuer.
Bien sûr.
C'est-à-dire que quand ils descendent dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ont un tel désespoir que leur vie, finalement, est moins importante que cette envie de changement. Honnêtement, personne n'a la réponse à cette question. Moi, je ne pense pas que demain la République islamique va tomber ou va changer. On va vers une évolution. En tout cas, ce divorce entre la population iranienne qui aspire à de la modernité, à des changements, et une théocratie qui veut imposer des lois qui sont d'un autre âge, ne peut plus tenir, en tout cas sur la durée. Parce que là,
la rupture est consommée.
Rupture est consommée. Il y a une vraie, vraie lutte pour leurs droits, mais à cela s'ajoutent beaucoup de crises. Les Iraniens traversent une crise économique extrêmement forte.
Et qui alimente évidemment la révolte, on l'a compris. Merci, pardon Mariam Pirzadeh, on est un petit peu pris par le temps. Merci pour cet éclairage sur cette révolte qui gronde aujourd'hui en Iran. Merci beaucoup.
RTL Midi, c'est votre vie dans une seconde des thèmes d'actualité qui nous intéressent, bien sûr. De quel bois je me chauffe, par exemple? Eh bien, vous allez connaître toutes les astuces avec Armel Lévy pour, pourquoi pas, faire des économies.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est bien sûr ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Mais dans ma valise, un gros poulet vert.
Ça, c'est une façon, effectivement,
J'ai froid. Et oui, bah, si, température en baisse.
S'il faut prendre un pull au vert,
c'est parce que c'est l'automne.
J'y aurais pas pensé tout seul.
Non, mais je suis là pour ça, Pascal, pour vous aider au quotidien.
Bah, ça, c'est bien. Vous le faites bien, d'ailleurs.
Comme Jean Ferrat, donc vous avez peut-être froid.
C'est pas cette chanson de Jean Ferrat, d'ailleurs, mais bon.
Et je suis là aussi pour ça, pour votre culture musicale. RTL Midi a donc décidé de se pencher sur l'épineuse et parfois coûteuse question du chauffage à l'heure où les factures énergétiques s'envolent. Comment faire pour se chauffer à moindre coût ? Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Vous avez travaillé le dossier. Bon, d'abord, la première chose à faire, quand on peut, évidemment, c'est isoler.
Mais oui, parce que si vous avez des factures de chauffage très élevées, généralement, ce n'est pas le chauffage le problème, c'est que vous avez de la chaleur qui s'échappe. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier l'isolation de votre maison, parce que si vous changez de chaudière, vous allez continuer à chauffer beaucoup, puisque la chaleur s'échappera beaucoup. En fait, 30% de la déperdition d'énergie vient du toit. Donc si vous avez des combles perdus, un grenier qui n'est pas utilisé, il faut l'isoler. Il souffle de la laine de verre, ça dure une demi-heure, et ça coûte, aide déduite, 1 000 à 2 000 euros. Après, vous pouvez isoler les murs, il faut compter 150 euros du mètre carré. Avec les aides, ça fait plutôt 70 euros du mètre carré. Déjà, rien qu'avec ça, vous allez bien diminuer votre besoin de chauffage. Vous allez y gagner sur plusieurs années.
On l'a dit, répété, les prix d'électricité, du gaz, du fuel sont en hausse. C'est quoi le système de chauffage le moins cher aujourd'hui, Armelle ?
Alors, c'est tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, adieu, fuel, gaz et même dans une moindre mesure, l'électricité. Selon l'ADEME, l'Agence de transition écologique, si vous remplacez votre vieille chaudière à gaz par une pompe à chaleur, vous économisez 1500 euros par an. Et si vous remplacez votre chaudière à gaz par une chaudière à bois ou granulé, vous économisez 1300 euros par an. C'est pas rien. Les pompes à chaleur et les chaudières bois sont vraiment moins chères à l'usage. Après, en chauffage d'appoint, si vous avez des radiateurs électriques dans la maison, pour diminuer votre consommation et compenser avec du bois qui est moins cher, vous pouvez opter pour les poêles à bois ou à granulés. Cela fait quand même 750 euros d'économie par an. Vous pouvez aussi poser un insert dans la cheminée.
Mais évidemment, tout ça, c'est si on est propriétaire. Si on est locataire, c'est peut-être compliqué de changer une installation alors qu'on ne sait même pas si on sera là dans un ou deux ans. Quoi qu'il arrive, ça coûte cher, ces travaux-là. Si je veux installer par exemple une pompe à chaleur dans ma maison, j'en ai pour combien ?
Alors, si je prends en compte les aides, hein, donc je vous parle en reste à charge, ce qui vous reste à payer pour une pompe à chaleur, et c'est la même chose pour les chaudières à bois et granulés d'ailleurs, vous devez débourser 3 000 euros pour les familles les plus aidées et jusqu'à 12 000 euros pour les foyers les plus aisés.
Ce qui est beaucoup d'argent.
Oui, ce qui est beaucoup d'argent.
Et on a droit à quelles aides pour ces travaux-là, Armelle ?
3 aides, les mêmes à activer pour les travaux d'isolation et de chauffage, qui peuvent se cumuler sans dépasser un certain plafond. On a le C2E, certificat d'économie d'énergie. Là, tout le monde y a droit, quels que soient les revenus. Pour les plus modestes, il est majoré, 4 000 euros pour remplacer sa chaudière au fioul. Ensuite, il y a MaPrimeRénov. Là, le montant de l'aide dépend du type de travaux, du nombre de personnes dans la maison et de vos revenus. Jusqu'à 11 000 euros pour une chaudière à granulés. Mais là, les aides sont boostées. Il y a un bonus de 1 000 euros jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est le moment de faire des travaux, car ce n'est pas sûr qu'elles soient maintenues après le 1er janvier. Et aussi, vous avez un éco-prêt à taux zéro de 15 000 à 50 000 euros remboursable sur une période de 3 à 15 ans, alors ce qui vous permet d'avancer l'argent, parce que les aides arrivent généralement entre un mois et trois mois après les travaux.
Merci beaucoup, Armelle Lévy. Si vous avez pas tout retenu, évidemment, tout ça est à réécouter hein, sur notre site et notre appli RTL.fr. Ne passez pas à côté de ces aides pour mieux vous chauffer.
C'est
merci,
ça qui est
Armelle.
Important, effectivement, dans ce que disait Armelle, c'est qu'il existe des aides et qu'elles peuvent contribuer à vous faire payer moins cher. Il est à 12h27. Dans quelques secondes, ce sera la grande édition de 12h30.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Figurez-vous qu'il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline.
Il a failli passer à côté de 4,5 millions d'euros. On va vous raconter l'histoire de ce gagnant de l'euro-million qui a sauvé son gain presque par hasard à quelques heures près. Les Russes fuient la mobilisation et le front ukrainien. Le nombre de Russes passant la frontière avec la Géorgie a doublé ces derniers jours. La bataille pour la succession de Christian Jacob pourrait bien durer plus longtemps que prévu. Un broglio chez les Républicains. Des déchaînements de violence récurrents qui laissent des habitants démunis. Notre journaliste Maxime Lévy a enquêté sur les guerres des bandes en Seine-et-Marne. On y revient en longueur après le journal. Et puis votre rendez-vous culture LVT Midi juste avant 13h avec aujourd'hui Florence Foresti et son nouveau spectacle Boys, Boys, Boys qui sera joué à partir de ce soir. La question du jour sur RTL.fr. Site pornographique, faut-il généraliser le contrôle parental sur les téléphones portables?
Ça paraît effectivement le bon sens. On en parlera à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole. Vous pouvez appeler au 3210. Avec ce sujet peut-être majeur, vous sentez-vous encore en sécurité en France?
La météo à la fin du journal, mais déjà un indice, Peggy, c'est l'automne.
Et oui, tout. Et un temps bien arrosé cet après-midi, Céline, sur le nord-est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Il a donc failli passer à côté du gain de sa vie. L'homme qui a remporté 4,5 millions d'euros cet été à l'Euromillion s'en est rendu compte sur le fil.
Oui, il n'avait rien vu de l'appel à témoins lancé par la FDJ, pourtant bien relayé dans les médias. Et c'est donc presque par hasard, Nerissa Emani, à quelques heures seulement de la date limite, qu'il a retrouvé son ticket gagnant.
Oui, au fond de son portefeuille, alors qu'il s'apprête à payer son kebab, ce sexagénaire tombe par hasard sur son ticket Euromillion. Il décide de le faire valider dans la foulée. Et là, bonne surprise, on lui apprend qu'il est multimillionnaire. Une fois rentré chez lui, l'heureux gagnant montre son sandwich à sa femme comme un porte-bonheur et lui dit « c'est un kebab en or ». Car à quelques heures près, son gain lui passait sous le nez. Ce joueur occasionnel n'avait pas vu les appels à témoins de la FDJ depuis 2 mois. Il explique avoir joué à l'Euromillion par hasard, là aussi, pendant des vacances dans les Hautes-Alpes, à Puy-Saint-Vincent, une grille flash. Alors aujourd'hui, il souhaite rester anonyme, rêve de s'offrir une nouvelle maison, de voyager en Amérique du Sud, de manger dans de beaux restaurants en famille. Fini donc les fast-food, même si on a fait le calcul, avec 4,5 millions d'euros, Céline, il pourrait s'offrir environ 600 000 kebabs.
Mais c'est peut-être trop.
600 000,
c'est trop. Pas facile à digérer. Merci beaucoup, Nerissa et Mani.
RTL Midi.
Harcelée au travail, Magali a mis fin à ses jours à la veille de la rentrée. Aujourd'hui, ses enfants se battent pour lui rendre justice.
Cette femme de 51 ans travaillait dans un groupe scolaire de Fonsorbe, à l'ouest de Toulouse. Et d'après ses fils, Patrick Hisson, elle a vécu pendant 3 ans un véritable calvaire.
Oui, c'est quelques jours après le suicide de Magali que Dorian et Pierrick ont découvert l'ampleur du harcèlement au travail dont aurait été victime leur maman.
Dans ses carnets, il y a écrit « vomissement avant de partir au travail le matin », etc. Puis après, il y a cette tentative d'homicide.
Un employé municipal qui aurait foncé sur elle en voiture.
Enfin, qui a foncé sur elle en voiture, puisqu'on a un témoignage des plus cohérents et solides qui l'atteste.
Il y a aussi de très nombreux témoignages qui ont été récoltés dans une mairie où la parole s'est désormais libérée après avoir été étouffée pendant presque 3 ans.
Tout simplement parce qu'il y a une hiérarchie qui n'a pas réagi et un syndicat qui était couvert.
Je confirme. Comme il y avait un climat de terreur, il y avait une mainmise de la part des harceleurs sur toutes les instances d'autorité, on va dire, qui essayaient de faire taire tout le monde.
La maire de Fonsorbe, une ancienne médecin du travail, se refuse aujourd'hui à tout commentaire dans l'attente d'une enquête administrative en cours. Il y a 2 semaines, dans la Dépêche du Midi, elle disait avoir découvert, après le drame, des dysfonctionnements inimaginables. La CGT assure de son côté l'avoir pourtant alerté il y a plusieurs mois du risque de suicide au sein du personnel municipal.
Patrick Hisson pour RTL.
Un mois après la cyberattaque visant l'hôpital de Corbeil-Essonnes, c'est un pôle universitaire de la défense à Courbevoie qui est visé par les hackers. Ça se généralise d'ailleurs. Ça.
Le pôle Léonard de Vinci, oui, qui regroupe plusieurs écoles de commerce, de management ou d'ingénieurs. 8000 étudiants au total. Et les hackers ont réussi à collecter leurs données personnelles, Guillaume Chiaz.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils affirment. Capture d'écran à l'appui. 2 hackers ont diffusé samedi soir sur Twitter des messages indiquant qu'ils étaient en possession d'informations personnelles des étudiants, leurs passeports, leurs adresses, leurs numéros de sécurité sociale ou encore leurs comptes bancaires. Toujours selon les hackers présumés, des négociations seraient en cours avec le pôle de Vinci. L'établissement, de son côté, a informé les élèves ce week-end et devrait, selon les informations de RTL, déposer plainte aujourd'hui.
Et à quoi peuvent servir ces données aux hackers?
Alors, dans l'absolu, on pourrait craindre que toutes ces informations servent, par exemple, à usurper l'identité de certains étudiants. C'est en tout cas la menace que les hackers font planer, mais ce n'est pas leur volonté. Dans ce cas précis, ils sont plutôt dans une première étape, montrer qu'ils possèdent ces informations, faire planer la crainte d'une fuite, tout cela pour faire plier le pôle et obtenir le versement d'une rançon.
Merci Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Vous pouvez retrouver sur notre site internet un dossier complet sur cette cyberattaque, dossier signé Benjamin U. Le coup de sang d'Éric Dupond-Moretti ce matin après la mise en retrait d'Adrien Quatennens et de Julien Bayou. Le ministre de la Justice dénonce une dérive. On est en train de créer une justice qui n'a aucun sens, mortifère et délétère pour nos institutions, selon le garde des Sceaux.
Une justice privée, voilà un thème qui fera réagir les auditeurs entre 13h et 14h30. La politique, avec ils devaient connaître leur nouveau chef début décembre, mais le calendrier pourrait bien être bousculé chez les Républicains. La bataille pour la succession de Christian Jacob s'annonce plus mouvementée que prévu.
Et la faute à un imbroglio juridique. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents, Virginie Calmels avait vu sa candidature recalée, faute d'avoir payé sa cotisation dans les temps. Elle avait déposé un recours, recours accepté. Elle peut donc être aujourd'hui candidate. Mais rien n'est réglé pour autant, Marie Mollet.
Eh oui, car cette ancienne adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, Virginie Calmels, ne veut pas s'arrêter là. Dans les colonnes du Figaro, elle a demandé à repousser la date du scrutin à début janvier, car dit-elle, elle a été privée de campagne depuis plusieurs semaines, pendant que les autres candidats courent déjà les réunions publiques et les plateaux télé. Vertige à LR, où personne ne l'avait vu venir. Réunion de crise hier, d'après une information de Politico. Faut-il maintenir le calendrier au risque de voir l'élection invalidée plus tard par la justice? Un accord à l'amiable est-il encore possible avec Virginie Calmels? Honnêtement, on passe pour des cons, s'agace-t-on dans l'entourage de l'un des candidats. Le problème à LR, c'est qu'on a toujours été dans la bidouille avec les statuts, abonde un proche d'un autre prétendant. Ça marche quand tout le monde est d'accord, mais plus quand quelqu'un veut tout faire péter en justice. Et comme si cela ne suffisait pas, cette tambouille sur les dates pose un vrai problème de corps électoral, puisque chez LR, les cartes d'adhérents se périment au 31 décembre. Alors quid d'une élection en janvier? Un élu soupire, tout ce bazar pour une candidate qui n'a aucune chance de l'emporter.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Les Russes, toujours plus nombreux à fuir le pays pour éviter de partir sur le front de l'Ukraine.
Il y avait les manifestations, les arrestations, signe déjà que le pays n'adhérait pas en masse à la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine la semaine dernière. Il y a désormais ce chiffre qui en atteste. Les arrivées de Russes en Géorgie ont presque doublé ces derniers jours, Sébastien Rouxel.
Oui, depuis mercredi dernier, ils sont en moyenne 10 000 chaque jour à traverser la frontière contre 5 à 6 000 en temps normal. Les images qui nous parviennent sont impressionnantes. Des voitures à la file indienne sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il faut parfois plus de 30 heures pour réussir à entrer dans le pays. Ce sont pour l'immense majorité des hommes, parfois seuls, parfois accompagnés de leur famille, des hommes aptes à combattre, qui pourraient être mobilisés un jour ou l'autre, c'est en tout cas leur crainte. Depuis l'annonce de la mobilisation, ils sont sans doute quelques centaines de milliers à avoir trouvé refuge dans des pays voisins, 17 000 en Finlande rien que ce week-end, près de 100 000 en moins d'une semaine au Kazakhstan, dont le président, pourtant allié de Moscou, annonce aujourd'hui qu'il protégera tous ceux qui fuient. Malgré cet exode massif, le Kremlin n'a pour le moment pris aucune décision pour fermer les frontières aux hommes en âge de combattre.
Merci Sébastien Rouxel pour RTL. Un mot de sport avec la défaite de l'équipe de France féminine de basket qui s'est inclinée 68 à 62 contre la Serbie ce matin lors de son dernier match de poule. Les Françaises qui risquent donc d'affronter en quart de finale de ce mondial les États-Unis ou la Chine. La météo, on vous retrouve Peggy Broche.
Avec un temps bien arrosé Céline, et en même temps on en a besoin. On a des averses plus fréquentes qui se mettent en place cet après-midi entre la région parisienne, la Franche-Comté jusqu'au Massif central. De la neige même sur les Alpes du Nord, dès 1700 mètres, on attend 10 à 20 cm au-delà de 2000 mètres sur les Savoies. Et puis il y a une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne avec du vent, de la pluie. Et le temps est plus sec sous un ciel variable sur l'ouest du pays, entre la Basse-Normandie, le sud-ouest, sauf sur les Pyrénées où c'est vrai, ça reste pluvieux cet après-midi. Près de la Méditerranée, le ciel se dégage un peu plus par rapport à ce matin, au prix d'un vent fort comme sur la Corse où ça souffle jusqu'à 110 km/h et même 150 km/h sur le Cap Corse. Tout ça sous des températures encore fraîches pour la saison, globalement comprises entre 15 et 19 degrés jusqu'à 26 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
La guerre des bandes, ces rivalités entre jeunes de quartiers voisins, de communes voisines. On en parle dans une seconde avec Maxime Lévy.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau.
RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
Moi, j'ai peur. J'ai peur qu'on m'appelle un jour, on me dit ton fils, il est mort. Mon fils, quand la dernière X est arrivée, clairement, il n'est pas parti à l'école. J'ai pas envie qu'il ait une confrontation avec un autre groupe. Donc, je l'ai retiré provisoirement. Là, je l'ai remis à l'école, mais je le dépose et je le récupère tous les jours. Moi, je ne veux pas qu'il traîne.
Témoignage saisissant d'une mère de famille du Mets-sur-Seine en Seine-et-Marne, ville voisine de Savigny-le-Temple, touchée par le phénomène des guerres de bandes. Difficile d'avoir une vision globale, mais les faits s'enchaînent. Un mort en début d'année dans cette commune francilienne. Un autre jeune grièvement blessé, éventré il y a 3 semaines. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
C'est vous qui avez recueilli le témoignage de cette mère qu'on a entendu il y a quelques secondes. Vous avez rencontré sur place des habitants complètement démunis face à de tels déchaînements de violence.
Oui, des habitants et puis voilà, surtout des mères de famille. Elles ont d'ailleurs monté un collectif au Mets-sur-Seine, les mamans en colère. Et elles demandent tout simplement de se faire aider. Elles ont envoyé une lettre au préfet pour qu'il puisse faire quelque chose. Elles ne savent pas comment faire face à ces rixes dont parfois leurs enfants font partie. Alors, pour préciser, c'est l'histoire de quelques jeunes. Ils sont des dizaines. C'est pas tous les jeunes des communes qui se rivalisent entre eux. Ils sont quelques dizaines. Mais ils sont complètement incontrôlables. Ils se battent à coups de béquilles, de marteaux, de couteaux. Ils sont très jeunes. Ils ont entre 14 ans et 16 ans. Parfois
c'est
un
ça
peu
qui
moins.
Est nouveau. Leur jeunesse.
Mais ils sont de plus en plus jeunes, oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui se transmet un petit peu, c'est assez ancien et ça s'est transmis un petit peu des anciennes générations. En tout cas, ces rivalités sont transmises.
Alors, c'est pas nouveau, bien sûr, ni en France ni à l'étranger. West Side Story, ça a 60 ans. Mais qu'est-ce qui fait que c'est plus violent aujourd'hui, si tant est que ce soit plus violent?
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est plus violent? En tout cas, il y a de plus en plus de rixes avec des couteaux. Ça c'est vrai. Alors avant, moi, ce que me disent les habitants, alors il y a toujours un petit peu de avant, c'était moins violent. Bon, est-ce que c'est très objectif? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a effectivement de plus en plus de rixes avec des couteaux. On l'a vu par exemple, il y a eu 2 blessés au Mets-sur-Seine il y a 1 an. On l'a vu un peu plus loin en Essonne cet été. Et ce qui est nouveau aussi, c'est l'utilisation des réseaux sociaux à la fois pour se rencontrer très rapidement, par exemple en quelques minutes. Les jeunes peuvent se communiquer.
C'est ça, il y a un message de posté, c'est rendez-vous maintenant à tel endroit pour
c'est
en découdre.
C'est ça. Ça peut être dans les gares RER, ça peut être dans les centres commerciaux, ça peut être à l'entrée des lycées. Et puis, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils vont se provoquer. Par exemple, ils vont se créer des musiques où ils vont insulter les habitants de l'autre commune. Ils vont vraiment se provoquer, ils vont se chauffer entre jeunes sur les réseaux sociaux et puis après, ils vont s'affronter.
Mais à l'origine des affrontements, il y a quoi? C'est du trafic de drogue, des stupes, comme on dit? C'est une guerre de territoire?
Bah, oui, il peut y avoir un petit peu de fond, de rivalité sur point de deal, de guerre de territoire. Mais ce qui est assez incroyable, et c'est le mot qu'utilise d'ailleurs le maire du Mets-sur-Seine, c'est que tout ça est assez superficiel. C'est très futile. Il n'y a pas vraiment de vraies raisons. C'est-à-dire que c'est des raisons, par exemple, ta commune est moins bien que la mienne. C'est des raisons d'honneur, ça peut être des raisons par exemple des bagarres de filles, enfin tu es sorti avec telle fille.
Des bagarres de filles, parce que c'est que des garçons quand même.
Oui, oui. Mais c'est pas, par exemple tu es sorti avec telle fille, elle appartient à une autre commune, donc ça va pas se passer comme ça, on va se combattre entre nous. Donc c'est vraiment des, ou alors comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des clips de rap qui vont insulter telle commune, et donc du coup ils vont
réagir.
Mais
ces jeunes, ils vont à l'école, ils sont surveillés, ils ont une autorité parentale au-dessus d'eux?
Ils ont une autorité parentale, il y a quand même, faut le dire, pas mal de ces jeunes-là, donc ils sont pas non plus beaucoup, mais il y a pas mal de ces jeunes-là qui sont déscolarisés. Il faut dire que ces communes, moi j'ai rencontré...
À 14 ans.
Tout à fait, et j'ai rencontré
donc
les...
Donc dans la journée, ils font rien.
C'est tout à fait, en tout cas une partie de ces jeunes, et moi j'ai rencontré les maires des deux communes, et ils sont assez démunis.
Les maires et MIRE.
Les élus des deux communes, et ils ont plus de services publics, il y a des classes qui sont fermées, heureusement à Savigny-le-Temple, les classes n'ont pas été fermées malgré des volontés, mais à Oumé-sur-Seine, il y a des classes qui ont été fermées. Et puis y a un manque d'éducateurs.
Et les classes ont été fermées pour cette raison-là, parce qu'il y avait trop d'affrontements.
Non, c'est pour des raisons budgétaires, pour des raisons de. On met sur scène, par exemple, pour des raisons de.
Et donc il y a aussi une part de responsabilité peut-être de l'État qui n'a pas assuré suffisamment l'éducation.
Je dis tout à fait. En tout cas, c'est ce que.
C'est ce qu'on vous a dit.
C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, la maire, l'élu de Savigny-le Temple, elle se sent complètement abandonnée par l'État. Plus de services publics, plus d'écoles, plus de moyens pour la police. Elle dit que les policiers de sa commune font très bien le travail. Ils sont là, ils sont vraiment impeccables.
Mais il n'y en a pas assez.
Par exemple, pour l'anecdote, elle, la mairie, qui a dû acheter les vélos de patrouille pour la police nationale, par exemple, voilà, de son commissariat.
Parce qu'il n'y avait pas les moyens.
Parce que ça n'avait pas été fait pour qu'ils puissent patrouiller, pour qu'ils puissent patrouiller plus facilement.
C'est terrible, parce qu'on se dit comment on va sortir de ces situations, quelles solutions ?
Bah, en tout cas, encore une fois, les élus demandent plus de moyens de l'État. Ils se sentent en première ligne. Et, voilà, ils sont incontrôlables. C'est des jeunes qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. Même les éducateurs peuvent pas faire grand chose.
Et des jeunes qui sont prêts, vous le disiez, à mourir pour une question d'honneur, de code postal presque.
Mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que ils revendiquent une identité communale. En fait, ils revendiquent le fait d'appartenir à une commune, non plus forcément à un quartier, mais carrément à une commune. Et entre communes, ils vont se.
Ce qui se passait dans le temps sur un terrain de football et la rivalité sportive a fait place à une rivalité. Criminel.
Tout à fait, à coup de couteau.
Dire, ouais. Et à coup de couteau.
Reprenez les ballons.
Bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. Des gosses qui font du sport, ils sont à l'abri, bien sûr, de ce genre de choses, mais des gosses aussi qui sont scolarisés, puis suivis par leurs parents. Parents, évidemment, c'est plus facile dans ces cas-là que ces enfants qui paraissent abandonnés. Merci Maxime Lévy, en tout cas, merci de ce tableau, même s'il est extrêmement sombre, effectivement. Merci à vous. Dans un instant, ce sera Laissez-vous tenter midi. Florence Foresti remonte sur scène avec un vieux titre. Qui chantait Boys, Boys, Boys ?
Sabrina ?
Boys, Boys, Boys. Je crois que c'était Samantha Fox, mais c'est quand Boys, 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 c'est dans les années 80, ça, Boys, Boys, Boys. Il me semble qu'elle était dans une piscine et qu'elle était. Elle avait un t-shirt.
Vous avez des souvenirs assez précis.
J'étais jeune et j'avais quelques émotions encore à cet âge-là. Il est 12h49, à tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Et la culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, c'est Monique Younes qui vient donc nous parler de Boys, Boys, Boys.
Yes.
En tout cas, pas exactement cette version. Bonjour.
Bonjour.
Pas exactement cette version, effectivement, Monique, puisque vous venez nous parler du nouveau spectacle de Florence Foresti qu'elle joue à partir de ce soir au Théâtre Marigny à Paris.
Oui, son spectacle, c'est un hymne à l'amour, Florence Foresti, et aux hommes Alors, bien qu'elle soit féministe, Foresti trouve infantilisant...
Pourquoi vous dites bien qu'on peut être féministe et aimer les hommes quand
même ? Mais voilà, elle trouve infantilisant... Laissez-moi terminer cette phrase délicieuse que je vais prononcer. Infantilisant donc de taxer tous les hommes d'agresseurs et toutes les femmes de proies. Elle le dit sur scène et en interview. Écoutez.
J'ai juste essayé d'apporter de la nuance grâce à l'humour, c'est tout. Donc oui, je me sers de ce spectacle pour parler un peu de ce nouveau féminisme qui a fait beaucoup de bien et qui peut aussi faire un peu de mal.
Mademoiselle, oui, d'accord, vous voulez plus de main au cul, génial. Mais moi, à mon âge, c'est un cadeau du ciel, alors merci. Mais quoi ? Comment qu'on va faire, nous, s'il n'y a pas un peu d'imprévu ?
Évidemment, c'est une manière de s'amuser sur les différences de regard qu'on peut avoir sur la société à 20 ans et à 50. L'eau qu'on met dans son vin, les nuances qu'on met dans ses combats. Je reste une espèce de performeuse du rire. Donc comme je m'exprime sur un sujet, bien sûr que j'essaye de faire réagir. La provocation, ça fait partie de mon métier.
Exactement. Il faut dire que dans tous ces spectacles, elle parle des relations entre les hommes et les femmes.
C'est vrai que Florence Foresti a des constantes depuis 20 ans, mais qu'elle traite différemment à chaque spectacle. Alors pendant le confinement, elle a eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, notamment à l'âge idéal de son futur amoureux. Et elle est arrivée à la conclusion très différente, mon cher Pascal, de celle de votre amie Yann Moix. Une femme de 50 ans est parfaite pour un homme de 30. Alors je lui ai demandé pourquoi.
Mais étant donné que j'ai 30 ans dans ma tête, je continue d'aimer les hommes de 30 ans. Non, c'est pas ça. C'est que, évidemment, je me suis servi du célibat que j'ai vécu il y a quelques années pour faire un petit tour d'horizon des hommes de 25 à 70 ans, quoi. Et en me posant la question de me dire avec qui je me projette, avec qui je me vois, et pourquoi moi aussi je veux ma bimbo, pourquoi moi aussi je finis par ressembler au mec que je critiquais avant, et pourquoi moi aussi j'ai envie d'un mec frais. C'est dégoûtant hein, d'être comme ça. Mais on est humain, on est con et parfois on aime bien aller chercher un peu de fraîcheur et de jeunesse dans nos amours.
Mais oui, on l'adore.
Évidemment, elle est cache.
L'autre constante qui revient dans ses spectacles, c'est son âge. Elle en parle tout le temps, comme elle parle aussi d'elle, d'une difficulté parfois à séduire.
Oui, c'est aussi une constante, mais vous savez, elle est comme tout le monde, elle ne veut pas vieillir. Alors, de nos jours, on parle beaucoup des non-genrés, et Foresti veut lancer la mode des non-âgés. Alors, elle s'imagine sur scène, entamant une procédure de changement de date de naissance. Une bonne idée, je lui ai dit.
J'assume le fait d'avoir toujours les mêmes blessures, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que je continue à monter sur scène. Si j'avais pansé mes plaies, si j'avais soigné toutes mes fêlures, qu'est-ce que j'irais chercher sur scène? Bon, donc j'ai les mêmes, oui. J'ai pas envie de vieillir. Oui, j'aurais eu envie d'être Monica Bellucci. Oui, les hommes, je leur reproche pas mal de choses, et les femmes aussi. Donc, j'y vais toujours finalement avec les mêmes pensées qui grandissent en moi. Donc, j'espère avec un peu plus de précision et de franchise. Et puis aussi, avec l'âge, il y a des choses qui se gâtent, qui sont pas chouettes. On est désenchanté, on a moins d'espoir. Et la scène, moi, ça me soigne un peu de ça.
Les jeunes, tu sais, ils ont une sorte d'espoir. C'est trop mignon. Ils ont de l'espoir. Bah, ils pensent encore qu'ils peuvent changer le monde. Voilà. Alors que nous, on le sait qu'on s'est fait baiser, quoi. C'est...
Le constat est un peu violent. Je suppose que dans Boys, 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 Florence Foresti parle aussi sexualité, Monique.
Alors, grand moment du spectacle quand vous allez découvrir pourquoi elle ne peut être qu'hétérosexuelle. Elle parle aussi des adolescents.
Vous ne voulez pas nous dire, c'est une surprise.
C'est une surprise.
Bah, oui.
Bah, y a des choses qu'on doit laisser cacher quand même. Hein. On ne doit pas tout révéler. Elle parle aussi des adolescentes. Il n'y a pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de sa fille de 15 ans. Vous savez un peu de quoi elle parle, Pascal, puisque vous en avez 4 d'adolescente. Alors, ce sont tous les parents qui se retrouvent en Florence Foresti quand elle joue la mère frappant à la porte de la chambre de sa fille.
Ma puce, je peux rentrer? Ah! Mon Dieu, on a été cambriolés! Hein? Ah non, pardon. Non, t'as pas rangé juste. Bien sûr. Tu es bête. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est ton espace. On l'a fait ton rappel de tétanos à toi? Ouais. Ok. Oh, grand Dieu, un ragondin, qu'est-ce qu'il ferait sur ça? C'est amusant, ça.
Et votre fille, effectivement, elle a dit « t'as vu juste maman » ou non?
Elle m'a rien dit sur ce passage, donc je pense que si elle a rien dit, ça veut dire qu'elle est OK. Sinon, elle aurait dit « ouais, putain, mais je suis pas comme ça ». Elle a rien dit de tout ça, donc je pense qu'ils sont très conscients des quelques aberrations qui nous font
donc
vivre.
Donc c'est
aussi
vrai, le ragondin, alors?
Ben voilà. Il est le bien, là, le ragondin. Donc dans Boys, 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 Florence Foresti parle d'elle, et ce faisant, elle parle de nous, obsédés par la beauté, par le pouvoir, par l'argent. Comme elle d'ailleurs, mais elle l'assume. Boys, Boys, Boys est donc un hymne à l'amour, au plaisir, aux femmes, que Florence Foresti considère depuis toujours comme le sexe fort, et un hymne aux hommes, que Florence Foresti désire et aime comme ils sont, quand ils font un petit effort pour faire attention à elle. Vous en ferez, Pascal?
Mais évidemment, mais c'est à Marigny, dès
oui,
ce soir.
Oui, c'est à Marigny dès ce soir, jusqu'au 31 décembre, et après elle part en tournée, et elle revient ensuite à Paris en 2023. Vous voyez, on a le temps de la voir et de la revoir.
Eh bien, écoutez, c'est formidable, et je pense qu'on ira, la voir, Marigny. La chambre des enfants, j'ai l'impression que quand nous étions enfants, nos chambres étaient quand même moins mal rangées que celles de nos ados. Parce que c'est vrai que je suis frappé de cela.
C'était
qu'en
mieux
pensez-vous
avant.
Non, je ne dis pas que c'était mieux avant. J'ai le sentiment quand même que c'est vraiment... Je vais reprendre cette petite vanne. On a été cambriolés. Hein, elle est bonne?
Elle est très bonne. Non, mais tout le spectacle... Mais je ne sais pas, elle a le génie de saisir une situation et quand même en très très peu de mots, vous voyez... Faire vivre une situation comme ça.
Un peu comme vous. Il est 12h58. Les auditeurs, à tout de suite.
RTL Midi.